Que pensez-vous de la défaite de George Bush? Que malheureusement, elle est méritée, mais pas pour les raisons invoquées dans les médias européens. Quelles étaient les raisons invoquées dans les médias européens? Les médias européens insistaient surtout sur la sale guerre en Irak. Paradoxalement pour nous autres Européens, les Américains, toutes tendances confondues, démocrates et républicains, ne doutent toujours pas, dans leur ensemble, du bien fondé de cette guerre en Irak. Mais ils trouvent que l'administration Bush s'est révélée incompétente pour la mener à bien. Pour ma part, je pense que si George Bush a un mérite, c'est d'avoir bien compris que le monde occidental était menacé par le totalitarisme musulman radical. Mais dans le même temps, je pense qu'il s'est trompé de cible avec l'Irak. Contrairement aux idées reçues, Saddam Hussein n'était qu'un tigre de papier, pour reprendre l'expression chinoise qui a fait florès. Son éviction s'est traduite inévitablement par le déchirement du pays, qui n'est pas sans rappeler celui de l'ex-Yougoslavie de l'après-Tito, et par une instabilité de toute la région. Quelles sont donc aujourd'hui les préoccupations des Américains avant même la préoccupation de l'Irak? Les sondages effectués à la sortie des bureaux de vote montrent que ce sont la corruption et l'éthique qui viennent en première position, le terrorisme en deuxième, l'économie en troisième. La deuxième préoccupation, celle du terrorisme, jouerait plutôt en faveur de George Bush. En effet, depuis le 11 septembre, il n'y a pas eu d'acte terroriste sur le sol américain. Mais il n'en va pas de même en Irak. Sa compétence en matière de lutte contre le terrorisme y est sérieusement mise à mal. Quel est le bilan économique de l'administration Bush? Les apparences sont trompeuses. La croissance de la productivité est forte. Le niveau de chômage faible. Et l'inflation modeste. La consommation est soutenue. Mais c'est parce que les Américains continuent à s'endetter et n'épargnent plus. Les bénéfices des entreprises atteignent des records historiques, mais les salaires ne suivent pas. Le revenu moyen est plus élevé, mais la crainte de perdre son emploi augmente. Les impôts baissent, mais la dette du pays augmente. Et si cette dernière augmente, c'est que les dépenses fédérales augmentent considérablement. Et si ces dépenses augmentent, c'est que l'administration Bush ne tient pas les promesses sur lesquelles elle a été élue et qui étaient justement de réduire l'État-providence. Il est significatif de constater que sous George Bush, le nombre d'employés de l'administration fédérale a augmenté de 79 000 personnes, alors que sous Bill Clinton, il avait diminué de 200 000. Il est non moins significatif de constater que les dépenses fédérales ont augmenté de 3,1% par habitant et par an, sous Bush, alors qu'elle n'avait augmenté que de 0,3% sous Clinton. Au lieu de régresser, l'État-providence a grossi démesurément avec notamment la couverture des frais médicaux pour les personnes âgées et les subventions accordées aux agriculteurs et aux fabricants d'acier, bien que George Bush sache pertinemment que le protectionnisme appauvrit la population. Quel bilan ! Mais il y a pire. Quoi donc? Quand on se veut le représentant de la droite religieuse, il faut faire respecter par ses troupes les principes chrétiens auxquels on adhère. Les dépenses considérables de l'administration Bush vont exciter les appétits. Des pots de vin vont être versés à des parlementaires. Des lobbyistes vont être convaincus de fraude. Les sommes allouées à des projets spécifiques vont passer de 1439 en 1995, à 13 997 l'année dernière. Enfin, le comportement de soldats américains dans la prison d'Abu Ghraib et celui de Mark Follett, ce parlementaire républicain qui échangeait des emails salaces avec des adolescents, ont de quoi décourager les plus fervents des supporters.